Shlomo HaMelech, qui est le sage parmi les sages, il a dit, il a voulu étudier ça et il s'est rendu compte qu'il n'y arrivait pas. Et il pensait que, il disait, qui pourrait atteindre la compréhension de cette paracha. Bon, ça veut dire qu'en réalité, Hachem ne l'a pas montré, n'a pas laissé Shlomo HaMelech découvrir le secret ou les lois de la vache rousse. Mais néanmoins, Moshe Rabbeinu, lui, il connaissait le vrai motif de la vache rousse. Chazal disent que dans le monde à venir, tout ce qui nous paraît mystérieux, incompréhensible dans ce monde-ci, tout ça, ça sera absolument éclairé dans le monde à venir. Mais en réalité, le Midrash Rabba, il dit qu'il n'y a pas que Moshe Rabbeinu qui ait eu accès à la vache rousse. Mais le secret, Rabbi Akiva aussi l'a connu. Alors, dans le Midrash, on dit comme ça. C'est Rabbi Lévi qui parle et dit, HaKadosh Baruch Hu avait dit, dans chaque cas, à Moshe Rabbeinu, quels étaient les cas de pureté et d'impureté. Et dans la Parshat Emor, on parle là-bas essentiellement des Kohanim, et on parle de Kohanim qui deviennent impurs au contact avec un mort. Et là-bas, dans la paracha, c'est pas marqué qu'Hachem a dit à Moshe comment ils allaient pouvoir s'en sortir, une fois qu'ils sont, ok, ils sont impurs. Mais si tu donnes pas le moyen de s'en sortir, au bout d'un moment, il n'y aura plus de quoi d'impur. Le Midrash dit que, comme Hachem ne lui avait pas dit, alors Moshe Rabbeinu, il a blémi. Et jusqu'à Parshat Roukat, donc de Emor à Roukat, Moshe Rabbeinu était soucieux. Et dans Roukat, Hachem lui a expliqué comment on peut redevenir pur. Et à ce moment-là, il a retrouvé en quelque sorte sa sérénité, Moshe Rabbeinu. Alors, il y a un paradoxe que tout le monde souligne, c'est que celui qui prépare, qui s'occupe de la vache rousse, il devient impur, alors qu'il prépare quelque chose avec laquelle, une chose avec laquelle, il va asperger la personne impure et elle va devenir pure. Alors, à la fois, il y a des chazal qui disent c'est étonnant, etc. Et puis après on dit, mais finalement, c'est pas si étonnant que cela. Parce qu'on sait très bien qu'Hachem peut tout faire. C'est HaKadosh Baruch Hu qui décide ce qui est pur et ce qui est impur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si effectivement ça a été dévoilé, que ce soit à Moshe Rabbeinu ou à Rabbi Akiva, mais le détail de ce qu'on fait, la procédure est étrange. Et la Gemara, elle rapporte qu'il y avait un noble romain, type important, qui a demandé à Rabbi Yochanan de lui expliquer ce rite de la vache rousse. Alors il lui a répondu en disant, voilà, dans les rites païens, si quelqu'un est atteint de mélancolie ou il est possédé par un mauvais esprit, il y a des médicaments qu'il doit prendre, ou bien on va lui faire respirer des herbes, certaines herbes qu'on aurait fait fumer, etc. Et bien, de la même manière, les cendres de la vache rousse, quand elles sont diluées dans l'eau, préparées sur les principes, peuvent faire disparaître l'impureté contractée par le cadavre. Par le contact avec le cadavre. Bon, lui, le Romain, il avait été satisfait de la question, de la loi, le Midrash dit, mais les élèves de Rabbi Achanan ont dit, ok, tu l'as répondu, tu l'as éloigné avec un fétu de paille, comme ils disent, avec rien du tout, mais qu'est-ce que tu vas nous donner à nous comme réponse? Alors, Rabbi Yochanan a dit, ce n'est pas l'homme mort qui rend impur, ni les cendres diluées dans l'eau lustrale qui rendent pur. La loi de la para aduma, c'est un chok, c'est une règle d'Hachem qui nous a dit, j'ai ordonné cette loi, j'ai institué ce décret, et l'homme n'a pas le droit de violer. Pour certains, que toute la notion d'impureté liée à la mort, elle vient de la faute du Hegel, la faute du Vaudor. Et que la procédure de la vache rousse, où c'est la mère qui vient nettoyer les saletés du veau, quoi, en quelque sorte, de son enfant, que c'est ça, c'était rendu nécessaire par la faute du veau d'or. Le Rambam, lui, il dit que les lois dont l'utilité n'est pas évidente sont appelées des chukim, des règles, statuts, règlements. Bon. Et pour ce qui est de la procédure du sacrifice de la para aduma, le Rambam dit comme ça, elle est appelée chatat. Curieusement, elle est appelée Khatat. Khatat, c'est un korban qu'on apporte quand on a fait une faute. Et le korban porte le nom Khatat. On entend Khet dans Khatat. Et la para aduma, qui n'est pas un sacrifice, mais elle est appelée Khatat. Donc elle aura un statut de Khatat. Pourquoi on lui donne ce statut de Khatat? Parce que c'est à partir du moment où quelqu'un s'est... Pour un bam, c'est une souillure d'avoir eu un contact avec un corps mort. Et si on n'avait pas fait quelque chose, il n'aurait pas pu entrer dans le Beit Hamikdash, manger des corbanotes, etc. Et il faut symboliquement cette paradouma qui va enlever la faute. Comme le khatat. Comme le corban le khatat enlève. Alors, le Rambam dit comme ça. Je t'ai fait, ça c'est ce qu'il a dit là, c'est une observation préliminaire. Il dit, j'ai déjà exposé tout ce qu'on voulait obtenir par le Beit HaMikdash, c'est qu'il produise une impression sur celui qui viendrait le visiter, qu'il inspire la crainte, la ira et le kavod. Comme c'est marqué, vous révérerez mon sanctuaire, le Mikdash. Mais quand on aborde continuellement n'importe quel objet respectable, l'effet qu'il produit sur l'âme diminue, l'impression qu'on en retire s'amoindrit. Bon, on s'habitue, c'est plus ok, on s'habitue à tout. Et les Chachamim ont déjà attiré l'attention sur ce point en disant qu'il n'est pas bon d'entrer à tout moment dans le Beit HaMikdash. On ramène ici un verset dans Michelet qui dit « Ne mets pas trop souvent le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne se rassasie de toi et ne te haïsse. »
Donc ça, on le rapproche avec le Beit HaMikdash.
Oui. Ne reviens pas trop souvent dans le Beit HaMikdash. Parce qu'on va banaliser la chose. Le Ramban, lui, il dit que la critique que les peuples font de cette cérémonie-là, elle se concentre sur le fait que leur paradouma, elle semble être offerte à des démons des champs, parce que c'est en plein champ qu'on l'a fait. Donc c'est comme si on sacrifiait aux démons des champs. Alors, il y a les commentateurs, comme Hirsch, qui vont expliquer de façon symbolique la paradouma. Il y a les rationalistes, comme Rambam, qui disent « Je regarde, puis là, je ne comprends rien. » Et Hirsch, il dit « On est certainement en présence d'une ordonnance fondamentale. Par la place qu'elle a occupée dans le cérémonial religieux à l'époque du Beth Amikdash, mais les raisons originelles nous échappent. Ça n'a rien d'extraordinaire du fait que la conception juive de la pureté et de l'impureté relève intégralement d'un domaine spirituel qui touche à la métaphysique et qui est donc difficilement accessible au raisonnement humain. La révélation n'a pu donner aux hommes que la partie réalisable de la loi et ses racines plongent dans une conception de la nature, de l'univers et de l'homme qui restera de par son caractère divin en dehors de l'emprise et des capacités d'investigation. Mais certains aspects de cette loi permettent d'entrevoir les idées qui ont pu déterminer son élaboration. Et donc, il va essayer d'en résumer quelques-unes. Il y a du rouge et du blanc, para-adouma. Les couleurs extrêmes de la capacité humaine, dit-il. Rouge, c'est le physique, l'animal, tout au service de sa vitalité, une force débordante, un élan pleinement consacré à la volonté de vivre. Mais cette volonté de vivre n'est encore imprégnée d'aucun effort spirituel. Elle est toute nature. Par conséquent, elle est périssable. Le blanc, c'est l'image de la pureté, du divin, qui réunit toutes les nuances, toutes les couleurs, dans une harmonie parfaite. C'est bien que le blanc, c'est toutes les couleurs à la fois. L'homme en face de la mort est en danger moral, car le physique semble tout-puissant, inexorable. Il condamne toute action spirituelle à l'inassouvissement, car la vie a un terme. Donc on n'arrivera jamais jusqu'au bout. La mort met donc l'homme devant le problème de sa nature relative, ses forces limitées, sa faiblesse. C'est en face de la mort, donc en face de la force de la nature, représentée par la bête de couleur rouge que se tient le Cohen, le prêtre, qui est vêtu de blanc pour en faire la shrita, manifester que l'idée, donc l'espérité, sera toujours vaincre le physique et qu'il n'y a pas en aucune circonstance abdication devant la mort.
Abdication de ?
Devant la mort. On n'abdique pas devant la mort. C'est la seule fois que les cendres de l'animal brûlé servent à l'aspersion. Partout ailleurs, c'est le sang de la bête qui est employé. Il y a toujours des procédures où on asperge avec le sang, voilà, que ce soit à Kippour, à d'autres moments. Ça semble vouloir démontrer la fin misérable de cet être resplendissant de vigueur et de santé. Le symbole accentue le côté matériel du sacrifice pour en faire ressortir avec plus de netteté le côté spirituel, éternel et triomphant. Il dit, curieux détail, que cette qualité des cendres, dont le contact transforme l'impur en pur, alors que le prêtre qui a aspergé en état de pureté, lui le prêtre, le Cohen, il était pur, mais il est tenu d'observer ensuite une période d'impureté, comme s'il était vraiment devenu impur. Et pourtant, c'est là que se retrouve le dualisme des contrastes, inévitablement, dans l'homme donc, ce qui restera éternellement vivant en face de ce qui disparaîtra obligatoirement, c'est l'esprit qui donnera durée à l'homme physique, mais c'est aussi le contact de cet esprit avec le physique qui souvent le diminuera, qui lui enlèvera de son intégrité et de sa limpidité. L'homme prostré devant le destin de sa chair, donc, reprend courage grâce à la lumière de l'esprit, l'impur devient pur. Mais l'esprit mis en présence de l'homme subit sa déformation, son influence néfaste. Il va néanmoins s'en dégager pour reprendre sa forme initiale. Le plus pur devient impur, mais redevient pur après un certain temps. C'est ce qui arrive au Cohen. Ça, c'est la symbolique. Et puis, il y a les kabbalistes qui, eux, disent que il s'agit d'abaisser sous la domination du bien les forces physiques qui règnent en dehors du Beth Amikdash. Les différents royaumes sont représentés par cette bête et ses qualités. Une couleur rouge unie, sans joug et sans défaut. C'est un animal qui n'a jamais porté de joug et pas de défaut. La Paraduma est entièrement brûlée et réduite en cendres. Ça correspond à l'anéantissement du pouvoir des royaumes qui ont servi Israël au cours des siècles. L'animal est réduit en cendres, comme l'a présenté le prophète, et vous, Malachi, il dit que vous foulerez les méchants qui se réduiront en cendres sous la plante de vos pieds. Or, ces cendres figurent l'impureté. Alors, l'eau lustrale est versée sur les cendres avec un pouvoir vivifiant et purificateur. On met de l'eau vive sur les cendres qui sont la mort. Là. Et en recevant cette eau, l'impureté des cendres devient pureté. Comme l'eau éteint le feu, alors la férocité, la méchanceté, la cruauté des nations finissent par être submergées dans l'eau bienfaisante dégagée par Israël. C'est ce que les kabbalistes disent. Et à partir du moment où le Kohen va mélanger l'eau, il est capable de rendre purs les impurs, alors qu'en attendant, l'homme qui était préparé à la procédure, reposé pendant la procédure, était devenu impur. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai donna cette explication, Rabbi Abba se leva et alla l'embrasser. Il apparaît dans cette théorie que ce qui est mauvais et pervers jusqu'au fond de son caractère doit être réduit par la flamme pour que la pureté règne à nouveau sur cette terre. Il en est de même du venin de la mort. Là où il se manifeste, la pureté doit être regagnée par la procédure de la vache rousse. Mais il n'est pas question d'utiliser là où la mort n'est pas occasionnée par le venin, c'est-à-dire chez les hommes justes et pieux, selon ce que disent le Zohar et le Ramban. On n'a pas besoin de cette procédure-là pour qu'ils ne deviennent pas impurs, même quand ils sont morts. Voilà. Alors ensuite, ça commence tout de suite de façon un peu surprenante, parce que le pasouk, il dit, on parle de la vache rousse, donc il aurait dû dire, dans le pasouk on dit « Vaïdaber Hachem el Moshe, vela Aaron les morts, zot chukat, ceci est la loi », on aurait dû dire, de la para aduma. Dans le texte, il porte « zot chukat ha Torah », c'est la loi de la Torah. « Hachem si va Hachem les morts », Taber el Bnei Israël, Vikou elecha, Farah Aduma, Tmima, Asheren Bamoum, donc il n'y a pas de défaut, elle est entière, elle est parfaite dans la robe rouge et sans, il n'y a pas de poids noir. Et il n'y a jamais eu de hol, on n'a jamais posé quoi que ce soit sur la bête. Et donc on va la donner à Elazar Cohen, donc il va tout, vous connaissez la procédure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, cette histoire de pourquoi est-ce qu'on dit Zot Rukat Torah alors qu'on aurait dû dire Zot Rukat Apara? En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une chouka, c'est un décret, c'est ce que Rashi répond. Rashi dit Zot chouka ta Torah, alors il ramène ce que on a vu, on l'a cité rapidement, que le Satan et les homo taolam, il se moque en fait d'Israël en disant mais qu'est-ce que c'est que cette mitzvah et quelle raison peut-il y avoir à cette mitzvah? pour ça que c'est marqué Chouka. D'abord, ici, on parle de quelque chose, d'une règle, Chouka. Chouka, c'est la même racine que Chakouk. Chakouk, ça veut dire gravé. Gravé, c'est la forme d'écriture la plus fixe, la plus figée. Quand tu écris, nous, quand on écrit, on peut effacer. Mais quand c'est gravé, tu ne peux plus effacer. Donc ça veut dire ici, il faut que tu mettes ça de façon à ce que ça ne puisse pas être effacé dans ton cœur. C'est une règle. C'est comme s'il fallait se construire à partir de là, quoi. C'est tout. C'est une partie de nous-mêmes. On ne peut pas... On ne peut rien en dire, en quelque sorte. On peut pas expliquer. Et donc... Maintenant, il reste quand même que c'est Chukat Torah. Alors le Rashbam dit, mais plus bas on va dire, Ve'ezu Torah umedaber. Ceci est la règle de la Torah. Plus bas on va dire, de quelle Torah il s'agit? Zot Torah. Voilà la Torah. Adam ki amud be'orel. Un homme qui vient à mourir dans sa tente. Klomar, c'est-à-dire Chukat Torah she'amar lemata. Zota Torah, c'est la chouka dont on va parler plus bas. Les autres chouka Torah, Shasiva Hashem les morts, voilà, je te parle de la Torah de l'homme qui meurt. L'homme qui meurt dans sa tente. Il meurt chez lui, dans sa maison. Rambam, quand il parle de cette mitzvah, il parle en même temps de plusieurs autres mitzvot qui sont très étranges. Pourquoi la Torah, elle dit qu'on ne peut pas manger de la viande et du lait en même temps. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela, finalement? Ou bien un vêtement qui est composé de lin et de laine, pourquoi chatnez, pourquoi c'est interdit? Pourquoi il dit aussi avoir des relations... Les unions illicites. Et aussi, qu'est-ce que cette histoire du bouc qu'on envoie à Kippour, à Azazel? Ces mitzvot, en fait, c'est des mitzvot donc qui ne sont pas conformes du tout à la raison. Et le Rambam dit les mitzvot qui sont conformes à la raison, d'une certaine manière, on n'a pas tellement de mérite à les respecter, parce que la raison nous dit de les respecter. Donc tout le problème, c'est de respecter ces mitzvot-là, qui sont shmayot, c'est-à-dire qui sont seulement... C'est les mitzvot qu'on a entendu que c'était une mitzvah, mais on ne l'aurait jamais fait par nous-mêmes, et on comprend même après coup, on ne comprend pas pourquoi c'est comme ça. Ici, il y a de nouveau cette idée, comme on l'avait vu déjà dans la Trouma, c'est marqué Vikru Elecha, Farah Adouma. Les Bnei Israël t'apporteront la Farah Adouma. Pourquoi il faut la porter à Moshe Rabbeinu? Chazal dit, c'est parce qu'il s'agit de mettre en évidence que la Farah Adouma, c'est même si en fait. Quand les cendres de cette Parah Adouma qu'on a brûlée au temps de Moshe Rabbeinu sont épuisées, il faudra bien la remplacer par une autre Parah Adouma. Mais la Parah Adouma, elle porte toujours le nom de... C'est la Parah de Moshe. On dit qu'il est toujours resté une espèce de résidu de cette première Parah de Moshe, qu'on mélangeait en quelque sorte avec toutes celles qui se viennent après, qu'on a faites après. Alors, il faut remarquer que comment ça se présente, on amène à Moshe la Parah Adouma, et puis ensuite, Untatem Ota El Azar Kohen. Ensuite, on la donne à Élazar. C'est un peu étonnant parce que Aaron, son père, est encore vivant. Et c'est lui qui va faire la procédure à Élazar. Alors, les commentateurs disent que la mitzvah elle appartient non pas au premier des Kohanim, Aaron, mais au second. Parce que la vocation d'Aaron, c'est la Kedusha, c'est pas la pureté. Et la Kedusha, c'est plus élevé que la Tahara. Donc lui, il s'occupe de Kedusha et pas de Tahara. Après la disparition d'Aaron, alors il y a une discussion pour savoir est-ce que ce sera le Kohen Gadol qui la fera ou bien pas, ou bien toujours le second. Mais ça, c'est resté en discussion. Est-ce qu'on a fait comme avec Aaron ou non? On va sauter un petit peu et on va aller à la troisième montée, Shlishi. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, kach et amate, prends le bâton. Et il lui donne les ordres de parler au rocher. Et pourquoi il lui dit ça? Parce que auparavant, les Bnei Israël sont arrivés à un endroit où Myriam est morte. Et du coup, il n'y avait plus d'eau, puisque c'était par le mérite de Myriam que les Bnei Israël avaient de l'eau. Donc ils se sont groupés, ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Ils ont commencé à prendre Moshe et Aaron à partie. Et ils ont commencé à dire, tu nous as amenés pour crever, ici on aurait bien préféré mourir avec nos frères en Égypte, etc. Pourquoi tu as amené avez-vous amené, parce qu'il parle aux deux, l'assemblée d'Hachem dans le désert, dans ce désert pour y mourir? Et pourquoi tu nous as fait monter de l'Égypte? Et alors là, c'est énorme. D'accord? Parce que qu'est-ce qu'ils disent? La vie otan ou elamakomara azé. Tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce lieu, dans ce mauvais lieu, en quelque sorte. Makom. C'est pas du tout. Tu nous as fait quitter en réalité pour un lieu qui n'est l'homme comme Zera ou Téna, Geffen, Brimon ou Maïm Enlichtot. C'est un endroit où il n'y a pas les bons fruits, il n'y a pas de figues, il n'y a pas de. On ne peut pas semer, il n'y a pas de vignes, il n'y a pas de grenades, il n'y a pas d'eau à boire. Et Vayavo, Moshe, Ve'aaron, Mipne, Akahal, El Petacho, El Moed. Vaïplou alpnehem, vaïrak vodashem alehem. Ceci, c'est un pasouk un peu effrayant, en quelque sorte. C'est ce pasouk vav du chapitre 20. Parce que, ici on dit, l'impression que Moshe Aaron se réfugie dans le Ohel Moed, qu'ils sont en train de fuir et que c'est une faute de leur part. Il se réfugie, et El Petach Ohel Moed, à ce moment-là, il se jette face contre terre. Et à ce moment-là, il y a une manifestation de la gloire divine sur eux. Et Hachem dit à Moshe, tu vas prendre le bâton, rassemble le peuple, toi et Aaron, ton frère, et vous parlerez El Hasela, vous parlerez au rocher, l'Enem, aux yeux de tout le monde. Et il donnera de l'eau. Votzetalaem Maim Minasela, et tu extrairas de l'eau de ce rocher. Vishkita et Aeda Bet Beiram, et tu abreuveras le peuple et leurs troupeaux. Et alors, il se passe quelque chose d'assez tragique ici. Moshe et Aaron rassemblent le peuple devant le Sela, devant le rocher. Et il interpelle le peuple et il dit « Shimuna Hamorim, écoutez s'il vous plaît, vous qui vous posez là comme les maîtres de vos maîtres. Amina Sela Aze Notzilachem Maim, est-ce qu'on va vous sortir, est-ce que de ce rocher on va vous sortir de l'eau ?» Donc ici on va expliquer que Moshe Rabbeinu Rashi dit Amina Sela Azenotzi, le fils Shelo Ayumakirim Oto. Le problème c'est comme ça, c'est que le fameux puits de Myriam c'était un rocher. Et ce rocher, quand Myriam est morte, il a repris sa place. Avant il avançait avec le clan Israël, il s'est remis parmi les rochers. Et il n'était pas reconnaissable. Et les Bnei Israël ont dit à Moshe, mais qu'est-ce que ça vient faire, de quel rocher on tire l'eau? Donne-nous de l'eau, on s'en fiche, nous, ce rocher ou un autre rocher. Mais Moshe, il cherchait le rocher de Myriam. C'est pour ça qu'il leur dit, mais vous qui vous voulez être les maîtres de vos maîtres, vous nous dites ce qu'il faut faire. C'est une parole qu'il a dite dans la colère aussi. Donc, ça fait partie de l'erreur de Moshe. Alors il a frappé le rocher. Il a levé son bâton. Il a levé sa main, pardon. Il a frappé le rocher avec son bâton. Il a frappé deux fois. Pourquoi il a frappé deux fois? Rashi dit... Le fiché barishona l'otzi ela tipin. Le fiché l'otzi va à ma comme la koto. Le rocher, il a donné que quelques gouttes parce qu'Hachem n'avait pas du tout ordonné de le frapper, il avait ordonné de lui parler. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moshe et Aaron, ils ont parlé à un autre rocher, ils se sont trompés. Et l'autre rocher, il n'a pas réagi. Alors ils se sont dit, peut-être qu'il faut frapper. Comme la première fois où Hachem avait donné l'ordre à Moshe de frapper sur le rocher. Et ça, c'est une erreur. Alors Hachem leur parle très durement à Moshe et à Aaron. Il leur dit, « Yan lo'emantem bi » parce que vous ne m'avez pas fait confiance. Vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des Bnei Israël. La reine, pour cette raison, l'Otavio et Akal Azé, cette raison, vous n'amènerez pas ce peuple. Et la Haaretz Asher Natati Lahem, dans le pays que je leur ai donné. C'est-à-dire, la sanction, c'est vous n'entrerez pas en Eretz Israël. Ce n'est pas vous qui allez diriger le peuple. Pourquoi ? Parce que vous ne m'avez pas sanctifié. On a l'impression ici que la sanctification, c'était de passer à la parole. Frapper le rocher et de tirer de l'eau, ça Moshe l'avait déjà fait. Donc, c'est comme si Moshe avait régressé, si on peut parler comme ça, en frappant de nouveau le rocher. Ce qu'Hachem voulait, c'est qu'il parle au rocher. Et ça, c'est un manque de Kiddush Hachem. Soit sanctifié Hachem s'ils avaient parlé au rocher. Ils ne l'ont pas fait. Et la sanction, c'est que on ne voit pas très bien le Mida Keneged Mida. Ça veut dire vous ne m'avez pas sanctifié, alors vous ne guiderez pas le peuple d'Israël en Eretz Israël. J'ai l'impression que il faut essayer de comprendre en quoi c'est Mida Keneged Mida. D'habitude, les sanctions, c'est mesure pour mesure. En quoi, quelle est la commune mesure entre la sanction et la faute? On peut peut-être dire que les Bnei Israël, ils vont entrer en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, la manifestation d'Hachem, elle ne sera plus comme elle l'était dans le désert. Il va falloir travailler normalement, etc., labourer, semer, etc. Et il faudra même, bien qu'on ait fonctionné comme tout le monde, reconnaître qu'en vérité, tout ce qu'on a, on l'a uniquement parce qu'Hachem nous l'a donné. Donc, faire les choses comme tout le monde, et néanmoins savoir que si ça a marché, ça n'a marché que parce que Hachem a voulu que ça marche et c'est Hachem qui me l'a donné. Et là, peut-être qu'on va dire, c'est-à-dire en fait, être capable de sanctifier Hachem. Ça, c'est sanctifier Hachem. C'est-à-dire, même dans les situations où c'est pas évident. Alors, eux, dans cette situation-là, où ils avaient l'occasion de sanctifier Hachem, et ils ne l'ont pas fait, donc ça les a disqualifiés pour être ceux qui vont faire entrer les Bnei Israël dans cet endroit où il va falloir sanctifier Hachem, alors que ce n'est pas du tout évident. C'est-à-dire que ce ne sera pas évident, puisque peut-être que c'est ça. Maintenant qu'ils soient sanctionnés parce qu'ils vont. Ah voilà, excusez-moi. J'ai encore dit qu'ils auraient dû sanctifier en parlant au rocher. Et le verset dit Emma me meriva, ce sont ces eaux de la dispute, Asher Ravou bnei Israël et Hachem, où les Bnei Israël se sont disputés avec Hachem, Veikadesh Bam. Et Hachem, Veikadesh Bam, Hachem a été sanctifié, comment? Par la mort de Moshe et d'Aaron. Et là, Rashi dit, je mets tout Moshe à Aaron al-Yadam, je ksha kadosh baruchu ose din, bim kudashav, vais où elle verra où il va au Midkadesh à la briotte. Vchenu Omer, Nora Elokim Mimikdashecha, Vchenu Omer, Bikrovaya Kadesh. Ici, on dit la même chose que ce qui avait été dit par, que Moshe Rabbeinu avait dit à Aaron au moment de la mort de Nadav et Abihu. Bikrovaya Kadesh. Je serai sanctifié par ceux qui me sont proches. Alors, je vais essayer d'expliquer en quoi est-ce qu'il y a une sanctification d'Hachem par la mort de ceux qui sont proches d'Hachem. On pourrait voir ce contraire, n'est-ce pas? Quand j'ai pensé à la chose suivante, c'est un peu. Ça peut se discuter. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est Kadosh, il est saint. C'est-à-dire. Il est séparé de nous. Et la hauteur de la séparation, elle est infiniment grande. Quand il y avait Moshe et Aaron, eux, ils étaient en quelque sorte entre les deux. Et donc, ça réduisait la hauteur divine, d'une certaine manière. Et donc, ce qui se passe... C'est que si on les enlève, alors il y a plus de Gdusha, parce que la hauteur, elle apparaît encore bien plus grande. Il n'y a pas eux qui étaient au milieu pour... ils faisaient, pour les bénis Israël, la hauteur divine, bon, c'était Moshe, quoi. Parce qu'il y avait Moshe qui leur parlait. D'accord ? Donc, quelque part, quand on enlève Moshe, il se retrouve directement face à Hachem. Et donc, la Gdusha... La séparation est bien plus grande. Donc effectivement, en faisant disparaître les intermédiaires, en quelque sorte, les relais, il y a plus de Gdusha. Il me semble que c'est un peu physique, quoi, mais c'est comme ça que je comprends un peu comment c'est possible. Dans cette paracha, où on a déjà eu la disparition de Myriam, mais aussi la disparition d'Aaron. Et le fait que Élazar prend la suite de son père. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est monté sur la montagne avec Aaron et Élazar, et il est redescendu avec Élazar tout seul. Il y a eu passation des pouvoirs, en fait. Donc, il ne reste plus que Moshe.
Une possession spéciale pour la mort.
Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Bnei Israël ont dit que Vaïvku et Aaron Shloshim Yom Kol Bet Israël. Ils ont pleuré Aaron pendant 30 jours, et tous. Et on va voir plus loin que Moshe, il n'a pas été pleuré de la même manière. Ils n'ont pas autant pleuré Moshe qu'ils n'ont pleuré Aaron. Le peuple était spécialement attaché à Aaron. Parce qu'Aaron, c'était celui qui faisait le shalom entre les gens, etc.